ensemble.
Il est 10h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
Gaëtan Plenet.
Bonjour à tous, je veux féliciter le peuple syrien pour la victoire de la révolution. Déclaration ce matin d'Abou Mohamed al-Joulani, le principal leader de la rébellion qui a conduit à la chute de Bachar al-Assad. Il appelle les habitants à descendre en masse dans les rues syriennes pour laisser éclater leur joie. Et pendant ce temps, les prisonniers libérés à la faveur de cette rébellion retrouvent leur famille. Dans ce journal également, le 26e anniversaire de l'assassinat du journaliste burkinabé Norbert Zongo. Et puis les récompenses du monde du jeu vidéo, les Game Awards. C'était cette nuit, les récompenses après une année noire pour le secteur. Mais d'abord, la France, qui est toujours sans Premier ministre, mais pas pour longtemps visiblement. Bonjour Raphaël Delvolvé.
Bonjour
Gaëtan. Du service politique de RFI. Alors on nous a d'abord annoncé un nom pour hier soir, on ne l'a pas eu. L'Élysée nous a finalement dit que ce serait pour ce matin, et là Raphaël, ça a l'air de se confirmer. Une passation de pouvoir est prévue à Matignon en fin de matinée.
Oui, la cérémonie est en cours de préparation. Un tapis rouge a été déroulé dans la cour de la résidence du Premier ministre, qui est située rue de Varennes, dans la capitale française. Reste à savoir évidemment qui sera à côté de Michel Barnier, le Premier ministre sortant, qui sera à côté de lui sur le perron tout à l'heure. Selon toute vraisemblance, même s'il faut être prudent, ce devrait être François Bayrou, le chef du MoDem, est toujours à l'Élysée en ce moment pour ce qui ressemble maintenant de plus en plus à un entretien préalable à une nomination. Ça fait une heure et demie que le président Macron s'entretient avec son allié historique et on voit mal maintenant pourquoi il prendrait autant de temps à lui dire qu'il a fait un autre choix, même si évidemment une surprise de dernière minute n'est toujours pas à exclure, tout simplement parce que l'annonce officielle n'a pas été publiée. Elle est toutefois imminente. RFI vous fera bien évidemment vivre la passation de pouvoir.
Et on suivra ça avec vous, Raphaël Delolvé, du
plaisir.
Service politique de RFI. La population syrienne appelée à descendre dans les rues pour exprimer sa joie. L'appel ce matin d'Abou Mohamed al-Joulani, le principal leader de la rébellion qui a conduit à la chute dimanche du pouvoir de Bachar al-Assad. Il est à la tête du HTS, le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham, qui a mené cette rébellion éclair et qui promet maintenant d'instaurer un état de droit en Syrie. La constitution et le parlement vont être gelés. En attendant, les portes de nombreuses prisons syriennes ont été ouvertes par les rebelles, notamment celle de Saïdania au nord de Damas. Et parmi ces prisonniers libérés, ils étaient nombreux à venir de Dera, la plus grande ville du sud de la Syrie, et avoir donc repris la route de leur ville d'origine. Raled est l'un d'entre eux, s'est blessé en boitant qu'il a retrouvé ses proches et ses amis. Notre correspondant dans le sud de la Syrie, Mohamed Erami, l'a rencontré en reportage.
Khaled retrouve sa mère après 10 ans de détention dans les prisons de l'ancien régime syrien. Lui était incarcéré dans les geôles de Saïdnaya. L'ancien prisonnier a du mal à réaliser qu'il est rentré chez lui. Ses yeux regardent parfois dans le vide. L'homme de 40 ans témoigne de tortures continues en détention et explique avoir assisté à la mort de centaines de prisonniers durant sa détention.
Loué soit le Seigneur. On ne s'attendait pas à voir un jour la lumière du soleil, ni même à revoir nos proches. Pour nous, dans la prison de Saïdnaya, nous attendions tous le moment de la mort, pas celui de la sortie.
Khaled, 70 ans, avait également perdu tout espoir de revoir son fils unique un jour. La vieille femme a le sentiment qu'embrasser son fils n'est qu'un rêve éphémère dont elle se réveillera très bientôt.
Louange à Dieu, Seigneur, Dieu m'a amené mon fils et Dieu aidera tous les prisonniers à sortir sains et saufs. Je n'aurais jamais imaginé revoir mon fils en vie et en un seul morceau. Dieu m'a donné ce dont je rêvais et Dieu aidera toutes les personnes qui ont aidé à libérer les détenus de la torture.
Selon un rapport de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le régime de Bachar al-Assad aurait arrêté des centaines de milliers de Syriens depuis 2011, dont au moins 105 000 sont morts sous la torture. Mohamed Erami, Dera, RFI.
Et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken poursuit sa tournée dans la région après un passage éclair en Jordanie hier. Il est en Turquie où il a pu s'entretenir dans la soirée avec le président Recep Tayyip Erdogan. Ce dernier lui a affirmé que son pays ne permettrait, je cite, jamais de la faiblesse dans la lutte contre l'État islamique et empêchera les efforts du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, considéré comme terroriste par Ankara, de, je cite toujours, transformer la situation sur le terrain en une opportunité. La Turquie, je le rappelle, soutient les forces rebelles qui luttent contre le contrôle kurde du nord-est syrien. Israël, de son côté, ordonne à son armée de se préparer à rester tout l'hiver dans la zone tampon entre Israël et la Syrie, sur le sommet du plateau du Golan, en partie annexé par l'État hébreu après la guerre israélo-arabe de 1967. Depuis la chute de Bachar al-Assad, Israël a déjà mené des centaines de frappes en Syrie contre des sites militaires stratégiques. L'armée israélienne qui poursuit aussi ses bombardements dans la bande de Gaza. Ils ont fait au moins 58 morts hier selon la défense civile locale. Parmi eux, 12 agents qui étaient chargés de sécuriser le transit des camions d'aide dans l'enclave palestinienne. Malgré tout, Anthony Blinken dit voir des signes encourageants pour un cessez-le-feu à Gaza. Le secteur énergétique ukrainien, à nouveau la cible d'une attaque russe massive ce matin, c'est ce qu'affirment les autorités ukrainiennes qui assurent tout faire pour minimiser les conséquences négatives. On apprend que des centrales thermiques ont été gravement endommagées par ces frappes. Ce ne sont pas les premières de ces dernières semaines. L'armée du Kremlin s'en prend régulièrement aux installations énergétiques ukrainiennes, provoquant des coupures de courant en pleine saison hivernale. C'était le 13 décembre 1998, il y a 26 ans, jour pour jour. Le journaliste burkinabé Norbert Zongo et ses trois compagnons étaient assassinés à Sapouilly, à une centaine de kilomètres au sud de la capitale. 26 ans plus tard, le dossier piétine toujours en justice. La France n'a pas aidé puisqu'elle a annulé le décret ministériel qui autorisait l'extradition du frère de l'ancien président Blaise Compaoré vers le Burkina Faso. Il est accusé d'être impliqué dans cet assassinat de Norbert Zongo. Or, ce dernier enquêtait justement sur la mort suspecte du chauffeur de François Compaoré. Hier, le Centre national de presse Norbert Zongo, qui défend le dossier, a reçu le président du Conseil supérieur de la communication, Louis-Modeste Ouédraogo, nommé cet été. Lui dit y être allé pour une prise de contact. Les journalistes présents en ont en tout cas profité pour l'interroger sur les suites de ce dossier et plus largement sur les restrictions des libertés dans le pays. Réponse de Louis-Modeste Ouédraogo.
Concernant la disparition du journaliste Norbert Zongo, c'est regrettable que jusque-là, on n'ait pas pu connaître toute la vérité ou qu'il n'y ait pas eu jugement pour au moins, en tout cas, situer les responsabilités. Mon souhait est que cela se fasse le plus tôt possible. Alors, par rapport donc à la situation, les restrictions des libertés, si les libertés sont restreintes dans le cadre des lois et règlements en vigueur, je pense que tout ce qu'on doit faire, c'est les accepter. Permettez à l'État de prendre les mesures qui s'imposent pour pouvoir accomplir sa mission régalienne de défense du territoire, de protection des populations. Si ces mesures doivent conduire à des restrictions de liberté, que cela se fasse dans les limites des textes et tout le monde devrait l'accepter. Nous ne devons pas voir donc les restrictions comme une volonté de museler, mais plutôt comme des voies et moyens pour permettre à l'État d'accomplir sa mission de protection de nos limites territoriales, de reconquête de notre territoire, mais aussi de notre souveraineté et pour assurer notre avenir tout simplement.
Le président du Conseil supérieur de la communication burkinabé, Louis-Modeste Ouédraogo. C'était cette nuit à Los Angeles, les Game Awards, 10e édition de ces récompenses des jeux vidéo. Et c'est le jeu Astrobot qui a été sacré meilleur jeu vidéo de l'année, mais aussi meilleur jeu familial et meilleure réalisation. Une consécration pour le petit studio Team Asobi, propriété de Sony. Astrobot, un jeu de plateforme qui met en scène les aventures spatiales d'un petit robot, s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires dans le monde. Ça ferait presque tâche alors que le secteur ne se porte pas très bien, c'est le moins que l'on puisse dire, Agnieszka Kubor.
Les professionnels du jeu vidéo s'inquiètent. 2024 restera dans les annales comme une année noire, avec un nombre record de licenciements. Une morosité à laquelle personne n'échappe. Certains studios ont délocalisé leur production pour faire des économies, alors que d'autres ont été obligés de fermer. Les entreprises n'investissent plus. Les nouveautés ont du mal à percer dans un marché dominé par les producteurs historiques. Les gamers passent plus de temps avec les jeux stars comme Fortnite, League of Legends ou encore Minecraft. Pour redynamiser le secteur, une restructuration en profondeur s'impose. Réorganiser les entreprises, diversifier les activités, utiliser de manière plus prudente les fonds alloués, les pistes de réflexion ne manque pas, mais malgré ces changements, dans les 5 ans à venir, toutes ces entreprises devront se séparer d'au moins un tiers de leurs salariés, alertent les experts.
Agnieszka Kumor. Et puis je rappelle l'info principale de ce journal. On attend toujours la nomination d'un Premier ministre en France. Annonce imminente, visiblement, puisque le tapis rouge a même déjà été déroulé devant Matignon pour une passation de pouvoir prévue en fin de matinée. François Bayrou, le président du Modem, est bien parti pour être nommé, puisqu'il est reçu reçu depuis maintenant une heure et demie par le président français Emmanuel Macron. On attend donc cette annonce visiblement dans les prochaines minutes. Merci d'écouter RFI, il est 10h10 à Paris.